97.3, on vous donne la
Bon midi mesdames, messieurs, bienvenue à l'heure juste sur les ondes du 97.3. Mon nom est Simon Dominé, directeur de l'information à CAGA-FM. J'ai le plaisir de vous retrouver en ce mercredi 15 avril 2026. Aujourd'hui, mon collègue Alexis Goyer, journaliste à la salle des nouvelles de CAGA-FM, s'entretient avec la députée fédérale de Pontiac, Kitty Ganzibi, Sophie Châtel, à propos de l'alimentation en électricité de la communauté Anishinaabe de Lac Rapide. Mais on débute l'émission avec une entrevue réalisée par ma collègue Michèle Tanganyika, journaliste elle aussi à CAGA-FM, avec la professeure de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais, Audrey Rousseau. Toutes les deux, elles se penchent sur une cartographie dévoilée tout récemment qui documente les cas des femmes, filles et personnes bispirituelles autochtones disparues au Québec depuis 1950. Bonne émission.
Au 97.3, on vous donne l'heure juste. C-H-G-A.
Femmes autochtones du Québec a publié une cartographie documentant les filles, femmes et personnes bispirituelles autochtones disparues au Québec entre 1950 et 2026. Une carte qui permet de mettre en lumière cette réalité. Et pour nous en parler, nous avons sur nos ondes Madame Audrey Rousseau, professeure de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais. Madame Rousseau, bonjour.
Bonjour et merci de l'invitation.
On voit que l'UQO a participé à la réalisation de cette cartographie. Parlez-nous de ce processus. Qu'est-ce qui a poussé l'UQO à réaliser cette cartographie?
Oui, bon, en effet, on a commencé à mettre en branle, là, c'est ça, un comité aviseur. On a essayé de voir un peu, obtenir des données sur les disparitions et assassinats de personnes autochtones au Québec, dans la province de Québec, puisqu'il n'y a jamais eu de portrait synthèse produit jusqu'à présent. Donc, on a tenté de vraiment, avec des démarches d'accès à l'information, là, d'obtenir des données, notamment des institutions policières non autochtones et d'institutions publiques variées, là, donc de différents ministères. Et donc, ça a pris plusieurs années à colliger. Et donc, nous, on est, avec ce volet plus quantitatif, on a souhaité avoir un partenariat avec Femmes autochtones du Québec et ça répondait aussi à leurs attentes et à leurs besoins. Donc, c'est bien, on a pu s'arrimer à partir de 2024, donc avec l'expertise de femmes autochtones du Québec, qui ont été plus dans un volet qualitatif, donc vraiment avec des communautés impliquées, bien sûr, donc des familles, des proches, des personnes disparues, assassinées. Et donc, vraiment, notre objectif, c'était de produire une carte interactive, une cartographie, si vous voulez, qui documente, donc ça avait trois objectifs, documenter des cas, que nous, on appelle des histoires, aussi parce qu'on souhaite pas penser juste en termes de chiffres, donc de cas ou d'histoires qui sont souvent invisibilisés. On voulait aussi sensibiliser un public élargi et les décideurs, et les décideuses aussi éventuellement, qui vont, espérons-le, porter des actions concrètes pour que la situation change. Et on voulait aussi honorer la mémoire des femmes, des filles et des personnes bispirituelles autochtones disparues ou assassinées au Québec. Donc, c'était vraiment un projet de grande ampleur, c'est inédit, et donc c'est le premier volet qui a été dévoilé, donc c'est la carte en tant que telle, et non pas le site web qui viendra dans quelques semaines.
D'accord. Et quels sont les grands constats que vous avez découverts durant le processus?
Ce que le projet a réussi à mettre de l'avant, c'est bien sûr que les données sont extrêmement parcellaires. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'identification, pas juste de l'identité autochtone, dans les données officielles, mettons, des données policières. La question du genre, hein, donc femme, homme, et donc il n'y a pas d'autre possibilité de dire non-binaire ou toute personne trans, etc. Donc, on a juste des femmes et des hommes, des personnes mineures, des personnes majeures qui sont pas toujours aussi distinguées. Donc, encore une fois, on est vraiment face à des limitations aussi qui sont d'ordre géographique. Hein. Les corps policiers agissent sur des territoires distincts et donc, il n'y a pas moyen, à part d'y aller au compte-gouttes, d'aller chercher toutes ces données-là. Et même le ministère de la Sécurité publique du Québec qui a ces chiffres-là, n'est pas en mesure de les produire puisque les chiffres sont très petits et donc ça permet la réidentification des personnes. Donc, voyez-vous un peu, nous, on tentait de jongler avec toutes sortes d'institutions policières, d'institutions publiques, essayer d'aller chercher le plus de données possible, mais vraiment fragmentées, qui, bien sûr, nécessiterait là, des grandes modifications au niveau de comment est-ce que ces données-là sont archivées, documentées, produites, etc., pour mieux comprendre le phénomène pour le Québec. Parce que si on n'a pas ces données-là, éventuellement, l'idée, c'est que cette réalité-là peut-être n'existe pas. Alors nous, on tentait de venir un peu à l'encontre de cette pensée-là, à savoir, oui, ça existe, parce que les familles en parlent. Et lorsqu'on commence à entrer dans les communautés, je ne vais pas généraliser, mais c'est très fréquent d'entendre une personne dire oui, lever la main, dire « moi, c'est arrivé à ma sœur, moi, c'est arrivé à ma tante. » Et donc, ce n'est pas des cas isolés. Alors, quand on fait ce constat-là entre le discours des familles, des proches, des personnes des communautés, et qu'on entend des discours des institutions publiques au Québec, ben, on se dit il y a un écart et comment qu'on peut comprendre cet écart-là. Alors le volet communautaire de fac, vraiment, ils ont réussi vraiment avec un travail avec les archives du coroner en allant dans les communautés, tout ça, à recueillir beaucoup de données qui étaient bien sûr invisibles jusqu'à présent. Et puis donc, femmes et filles, principalement personnes bispirituelles, mais on a aussi fait le travail pour hommes et garçons. Ça sera pas dans la cartographie, mais éventuellement, peut-être qu'il y aura un autre volet, parce que bien sûr, ça touche aussi les hommes et les garçons, malheureusement, ces réalités-là de surreprésentation. Donc, juste en résumé, ben, pour vos auditeurs, ils veulent pas m'entendre pendant 15 minutes, on parle d'environ 124 cas jusqu'à présent, parce que c'est sûr que ce n'est qu'à la pointe de l'iceberg, là, ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent, mais on parle de 124 cas ou histoires là, de femmes, filles, personnes bispirituelles autochtones disparues et assassinées depuis 1950. 96, bon, sont des personnes assassinées, donc victimes d'homicide. Et c'est la moitié de ces cas-là sur 96, c'est après 2000. Fait qu'on parle pas de quelque chose, même si on a tenté de remonter à 1950, c'est pas les mêmes méthodes d'archivage en 1950 qu'en 2010. Donc, encore une fois, il y a beaucoup d'enjeux ici méthodologiques dont je vais passer un peu les commentaires, là, mais vraiment 96, la moitié après 2000, on parle de quelque chose de significatif. 14 de ces 124 cas-là sont des personnes qui sont à ce jour toujours disparues, hein, qui n'ont pas été retrouvées, et 14 ont été portées disparues et ont été retrouvées sans vie. Mais voyez-vous la différence entre être retrouvée sans vie et être victime d'homicide? C'est pas la même chose parce que le Code criminel canadien a une catégorie très, très limitative d'homicide. Donc, nous, on a voulu aller plus loin que le projet avec FAC. Et vraiment, l'équipe a réussi à créer des nouvelles catégories qui tentaient justement de mieux saisir les parcours de vie. Donc, on parle de 124 cas ou histoires de disparition et d'assassinat, mais quand on ouvre vers des catégories qu'on a appelées des morts suspectes, d'autres types de décès qui sont liés à des circonstances aggravantes comme les violences en milieu institutionnel, mettons en milieu carcéral, en milieu hospitalier, des choses comme ça. Là, on est près de 220 cas ou histoires à ce jour documentées de femmes, filles, personnes bispirituelles qui ont vu leur vie coupée court dans des circonstances qui sont liées, bien sûr, à des enjeux et des dynamiques et des phénomènes historiques. Là, on parle, oui, de racisme systémique, on parle, bien sûr, de violence envers les femmes, on parle aussi, bien sûr, de dépossession territoriale. Quand on parle de plus de 75% des disparitions, là, je parle des disparitions seulement, il se passe en territoire urbain, on parle de hors communauté, donc être à l'extérieur de sa communauté, ce sont des facteurs de risque pour, justement, des enjeux notamment liés aux disparitions. Bien sûr, les histoires sont toutes différentes, hein. Elles ont des choses en commun, mais il faut aussi tenter de saisir les particularités de chacun de ces cas-là. Mais quand on tente de voir cette vue d'ensemble globale, on voit là qu'on n'est pas dans des histoires, je pourrais dire, très marginales. Non, on est dans des histoires très fréquentes de personnes qui disparaissent deux semaines, deux mois, qui reviennent à la surface, qui redisparaissent, ou de gens qu'on ne retrouve jamais. Donc, encore une fois, c'est ça que ça permet de voir la cartographie qui a été produite.
On voit qu'il y a vraiment plus d'une centaine de cas. Ça, c'est juste par rapport à la méthodologie que vous avez appliquée. Mais est-ce qu'il y a un profil type des victimes selon vos constats?
En fait, je vais juste répondre sur un des aspects vraiment qu'on a le plus fouillé, c'est à savoir que les victimes sont relativement jeunes. On parle de la moyenne d'âge, 31 ans. Donc, encore une fois, ça, c'est vraiment une caractéristique importante. On ne dit pas qu'il n'y a pas des personnes, bien sûr, de plus de 60 ans qui ont été victimes, par exemple, d'homicides, mais vraiment, on voit une tendance forte à des personnes dans la fleur de l'âge, des gens qui ont des enfants, beaucoup de mineurs aussi, quand même, passablement, des gens qui n'ont pas encore 18 ans, tout près de l'adolescence, et voilà, que leur vie est coupée court comme ça, puis il y a souvent aussi des situations aggravantes, on va parler de violences conjugales, violences entre partenaires intimes ou ex-partenaires intimes, ce qui est habituel aussi de d'autres cas de figure d'homicide de femmes, donc de féminicide en milieu qui est non autochtone. Et aussi, bien sûr, il y a des circonstances aggravantes liées aussi à des agressions sexuelles avant, malheureusement, le passage à l'acte. Là. Donc, excusez-moi d'être explicite là-dessus. Là. Mais donc, il y a vraiment des enjeux croisés liés vraiment à ces cas. Donc, bien sûr, comme je dis, là, on parle de plus de 75 ans. Là. C'est sûr que c'est difficile de généraliser de 1950 à 2026, mais on voit ce genre de tendance-là. Et bien sûr, c'est le Nunavik, hein, le nord du Québec, qui est surreprésenté au niveau des cas qui ont été documentés par FAC, à savoir, on parle de plus de 39 femmes, filles, personnes bispirituelles disparues ou assassinées depuis 1950. C'est vraiment un nombre effarant. Là. C'est extrêmement troublant de constater ce genre de disparité-là, parce que si on regarde, par exemple, la Côte-Nord, on parle d'environ 10, Montréal, environ 13, Ensuite, l'Outaouais, environ 11. Abitibi-Témiscamingue, 8. Je pense qu'il y a raison de réagir et de tenter de voir quelles sont justement les causes, et notamment le manque de ressources.
Madame Rousseau, on voit aussi, vous avez parlé notamment de Chypre, vous avez parlé du Nunavik, vous avez parlé de la région de Montréal, mais on voit aussi que l'Outaouais, c'est la troisième région avec le plus de femmes autochtones disparues ou assassinées. Mmh. Est-ce qu'on a une raison qui pourrait expliquer en fait qu'il y ait autant de cas ici?
Malheureusement, je ne peux pas aller dans le détail à ce moment-ci. Il faudrait que je me tourne vers l'équipe afin d'avoir vraiment les explications qui seraient les plus justes à votre question. Donc, je suis désolée pour le moment, c'est même pas possible de répondre par rapport à la surreprésentation qu'on pourrait voir ou une représentation importante de l'Outaouais à cet égard.
Oui, et on voit aussi, je regarde la carte, on voit par exemple les foyers, on voit beaucoup Kitiganzibi, Maniwaki, Gatineau. C'est bien ça aussi en Outaouais.
Oui, on voit qu'ils sont concentrés dans ces espaces géographiques, oui, avec Barrière Lake.
Est-ce que c'est le fait qu'on soit proche des communautés autochtones qui pourrait en fait être une piste qui expliquerait qu'il y ait autant de cas?
De manière générale, si on regarde l'Abitibi-Témiscamingue aussi, c'est très similaire. Parce qu'on voit Val-d'Or, Lac-Simon, Rouyn-Noranda, puis Kogan, on voit encore une fois que c'est des milieux urbains à proximité de communautés, par exemple des Premières Nations. Il y a cette réalité-là, puis après ça, il y a les réalités urbaines plus du sud, si je pourrais dire, comme Gatineau ou Montréal. On voit par exemple qu'à Gatineau, parce qu'on voit dans nos petites pointes de tarte, on voit les nations. C'est ça qui est aussi très, très innovant dans la cartographie, c'est qu'on est capable de retrouver les nations autochtones d'origine des femmes et des filles, des personnes bispirituelles qui ont été assassinées ou qui sont disparues, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Donc par exemple, à Gatineau, on voit qu'une grande proportion, là, c'est des personnes Cree et des personnes Anishinaabe. Donc, encore une fois, oui, la proximité des soins aussi. Des personnes Cree viennent aussi à Gatineau, Ottawa pour obtenir des soins de santé. Là, c'est malheureux parce que Gatineau et Ottawa sont séparés. En fait, Ottawa n'est pas sur la map, mais on verrait aussi une surreprésentation probable des personnes inuites assassinées, disparues dans la région d'Ottawa, puisqu'encore une fois, les gens viennent pour des soins de santé, pour les études, etc., qui fait qu'il y a une présence urbaine à plus de 50% au Canada, là, donc en milieu urbain, donc hors communauté ou hors village nordique. Donc, encore une fois, les personnes autochtones, les femmes autochtones, les filles autochtones, les personnes bispirituelles, les hommes, les garçons, se retrouvent en milieu urbain d'une manière extrêmement importante, là. Donc, plus de 50% des gens y habitent. Donc, ça pourrait être parmi des facteurs explicatifs, là. Puis, on voit bien sûr qu'en Outaouais, les deux cas actifs de disparition, Shannon Alexander et Maisie Ojik, c'est sûr que ça, c'est malheureusement les deux grands cas bien médiatisés de la région.
Très bien, Madame Rousseau. Dernière question. À quoi cette cartographie pourra être utile? À quoi elle servira finalement?
Bien, tu sais, je pense que, dans le fond, la sécurité des femmes autochtones, des filles autochtones, ça doit devenir une priorité pour l'ensemble de la société. Ça touche tout le monde. On entend souvent parler des féminicides, de la violence faite aux femmes, de la violence faite aux filles, etc., des violences sexuelles. On est au courant que ça existe, mais c'est comme si on dirait que c'est la responsabilité de personne, c'est la responsabilité de tout le monde. C'est un appel à l'action collective qui est lancé. À la fois, on veut pas jeter nécessairement juste le blâme sur les uns ou les autres, c'est de dire maintenant qu'on sait, maintenant qu'on a les faits, les données, on est en mesure, il faut agir. Donc, c'est vraiment un appel à agir de manière concertée, en impliquant, bien sûr, les personnes directement affectées, hein, les familles, les proches, mais aussi les organisations autochtones, les organisations dont Femmes autochtones du Québec, Saturvite, etc. Il faut que ces organismes-là soient à la table des conversations, là, de tout ce qui va être mis en place par les gouvernements, les institutions, etc., parce que s'il n'y a pas de concertation, ben là, on va comme recontinuer à produire les mêmes lacunes. Donc, je pense que ça serait principalement l'objectif de ce travail conjoint-là qu'on a réalisé là, depuis déjà plus de 2 ans. Là. Mais il y a un travail en amont qui date de plus longtemps que ça, mais quand même. Donc, on est fiers de ce qu'on a réussi à accomplir. C'est pas dans des circonstances faciles. C'est des enjeux qui sont extrêmement douloureux.
Très bien, merci beaucoup Madame Audrey Rousseau. On rappelle que vous êtes professeure de sociologie à l'Université du Québec en Outaouais. On vous souhaite une excellente journée.
Merci, vous aussi.
Restez avec nous sur les ondes du 97.3. On fait une courte pause publicitaire et l'heure juste reprend tout de suite après. Mon collègue Alexis Goyer parle avec la députée fédérale de Pontiac-Kitiganzibi, Sophie Châtel, à propos de l'alimentation en électricité de la communauté Anishinaabe de Lac Rapide.
Au 97.3, on vous donne l'heure.